un peu difficile son mandat. Il choisit aujourd'hui, eh bien, une démarche qu'on pourrait dire de lucidité. D'ailleurs, c'est le mot qu'il a employé hier soir. Lucide pour un président englué au tréfonds d'une profonde impopularité qui n'avait à nouveau quasiment aucune chance d'être réélu, de se succéder à lui-même. Et une démarche également courageuse, ça on peut pas l'enlever, pour un président eh bien qui ouvre désormais un espace pour celui ou celle eh bien qui sera à mieux à même de qualifier la gauche éventuellement pour le second tour de la présidentielle face à une extrême droite très forte, une droite qui a désormais son champion François Fillon, plébiscité par les sondages. Le président eh bien y sortir de cette campagne-là à 5 mois du scrutin dans une démarche digne d'un véritable homme d'État.
Et alors, on parle de ces pressions de ministres, notamment. Manuel Valls, dimanche dernier, c'était l'interview au journal du dimanche. Le lendemain, il y a eu un déjeuner qui a été qualifié de cordial, de chaleureux. On a vu les deux hommes, on a vu François Hollande, Manuel Valls sur le perron se saluer. Est-ce qu'à ce moment-là, Manuel Valls savait-il peut-être?
A priori, oui, car quand il prend dans la foulée son avion pour aller en Tunisie, on parle d'un certain nombre, d'un Premier ministre, cette fois très relax pour le peu, alors qu'on l'a vu pour le moins, on l'avait vu pour le moins tendu et dans un véritable bras de fer avec le président juste avant. Et dont, voilà, il échangeait même des clins d'œil avec certains de ses proches et des journalistes. Ils ont quelque chose s'est passé dans ce déjeuner, quelque chose d'apaisant. Il est fort à parier que la décision a été prise à ce moment-là, que le président a dit à son Premier ministre « voilà comment ça va se passer ». Et voilà, tout se passera pour le mieux et pour toi, puisqu'on le sait, Valls, sa grande ambition et préoccupation de ces derniers jours, c'était d'y aller à la place du président et de l'écarter de cette course à la présidentielle.
Olivier Roucan, ça veut dire que Manuel Valls, comme l'a dit Véronique Rigollet, faisait preuve d'une impatience, d'une très grande impatience. 2022, c'était beaucoup trop loin pour lui.
Bien, il a choisi en effet d'incarner la gauche de gouvernement lors de cette primaire, à savoir est-ce que ce sera le bon calcul, le contexte va être très difficile, et s'il n'atteint pas un certain résultat, et par exemple s'il n'est pas choisi, pour lui l'avenir sera très difficile, donc l'impatience lui coûtera cher. Les conditions sont-elles réunies pour que Manuel Valls soit désigné et pour qu'ensuite au premier tour il fasse un bon résultat, car cela sera nécessaire, eh bien, les risques qu'il prend là, aujourd'hui, à vouloir à tout prix être candidat, sont élevés. Il n'est pas dans la situation, par exemple, de Lionel Jospin en 1995, lorsque ce dernier avait pris le relais de François Mitterrand. Je rappelle d'ailleurs que Lionel Jospin, à l'époque, s'était dissocié de François Mitterrand et du mitterrandisme, et il avait parlé de droit d'inventaire, et c'est en faisant tout ceci qu'il a obtenu un résultat honorable au premier tour de la présidentielle.
Et ce droit d'inventaire, d'une certaine manière, François Hollande a fait son bilan, il a dressé son bilan, la liste de ses actions et aussi de ses regrets, on en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, il est 7h18 sur RFI.
Édition spéciale sur RFI.
Et donc après ce discours de François Hollande, cette annonce, il y a évidemment une avalanche de réactions, notamment celle du député socialiste Radi Hamadi.
C'est un sentiment de respect par rapport à un homme qui... est capable de se dépasser lui-même, de dépasser son ambition personnelle, la mission qu'il pouvait, l'idée de sa mission, et qui se dépasse dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la gauche, et dans l'intérêt du pays pour qu'elle ne se retrouve pas sous l'emprise d'un programme dangereux pour les nôtres, qui est celui de François Fillon, et qui serait encore plus dangereux avec l'extrême droite. Et ce respect, il est aussi nourri par finalement le bilan qu'est le sien, mais dont on ne se rendra compte de la réalité et des aspects positifs qu'après, que plus tard, de la même façon qu'un Lionel Jospin n'avait été salué qu'à partir du moment où il avait été défait.
En ligne avec nous à présent, Isabelle Le Callennec. Bonjour madame.
Bonjour.
Députée Les Républicains, vous êtes proche de François Fillon, toute nouvelle vice-présidente du parti. Que vous évoque cette annonce de François Hollande?
Écoutez, son annonce ne va plus tarder. Toutes les rumeurs couraient de plusieurs semaines. Il a dit ce qu'il allait faire. Moi, je pense qu'il a bien fait. Quand il nous dit qu'il était conscient des risques, oui, il était conscient du risque de perdre. Et puis, il a bien compris que son bilan était catastrophique et que ça lui collerait pendant toute la campagne. Et il a aussi analysé qu'il n'avait aucune capacité de rassembler autour de lui.
Madame Le Callennec, Véronique Rigollet a une question.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que cela contraint pas la droite à changer de stratégie ?
Ah, surtout pas. Mmh. Surtout pas. Je crois qu'il faut se défaire de cette idée que François Fillon changera son projet. Il a gagné la primaire avec sa personnalité et avec un projet qui précisément veut tourner la page de 50 socialisme et 50 François Hollande. Et donc, il n'y a aucune raison de changer.
Il n'y a pas à réajuster une campagne alors que, sans doute, peut-être, en tout cas, c'est Manuel Valls qui pourrait conduire cette bataille pour la gauche ?
Écoutez, il y a près de 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, il y a 25% de jeunes qui sont au chômage, la dette elle est 2200 milliards, il y a une augmentation des impôts comme jamais au début du quinquennat, l'insécurité qui est en hausse, le recul de la place de la France en Europe et à l'international, et donc le projet de François Fillon c'est précisément d'endosser le costume d'un chef d'État que n'a jamais endossé François Hollande, ça je pense que chacun peut le reconnaître, et donc tout est dans son projet qu'il a présenté dans le cadre de la primaire et que nous allons continuer à expliquer aux Français en retournant sur le terrain.
Et son projet, Madame Le Callennec, François Hollande a attaqué, enfin du moins il a pointé François Fillon, disant que son projet met en cause le modèle social, les services publics et un risque d'aggravation des inégalités tout de même hier soir.
Mais je crois que François Hollande est mal placé pour donner des leçons, puisque je vous ai rappelé son bilan. Je vous rappelle aussi qu'il devait réenchanter le rêve. Donc les Français lui ont confié un contrat à durée déterminée de 5 ans. De lui-même, il ne demande pas la reconduction de son contrat. Quand il nous dit qu'il est lucide, oui, il est lucide parce que les Français lui feront jamais confiance une deuxième fois. Donc nous, ce qu'on va faire dans les semaines et les mois qui viennent, de constater qui François Fillon aura comme adversaire. Je vous rappelle que c'est la gauche, alors qui va sans doute désigner un candidat, mais qui en a déjà un qui a dit qu'il ne passerait pas par la primaire, et puis l'extrême droite. Donc on va continuer à aller dire aux Français ce que François Fillon veut faire. Il a pris le parti de dire la vérité, qui n'est pas toujours facile à entendre aux Français. Il ne va pas promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir. Il dit ce qu'il fera, et je pense qu'il fera ce qu'il a dit pour le connaître. Et il faudra surtout beaucoup de courage, ce qui a sans doute singulièrement manqué à François Hollande et à son gouvernement, à ses gouvernements successifs.
Et François Fillon, donc, qui a déjà commencé à mener campagne dans la perspective donc, de la présidentielle de 2017. Vous parliez du Front National. Eh bien, justement, je vous propose d'écouter le vice-président du FN, Florian Philippot, après le discours de François Hollande d'hier.
Je la juge sage, sûrement évidente et inévitable. Je vois pas très bien, effectivement, dans les conditions de l'échec de ce quinquennat, comment François Hollande aurait pu prétendre à nouveau se présenter. Et en même temps, c'est historique, c'est une première, et ça en dit long sur l'état de décrépitude du pouvoir de ce quinquennat, de la vie politique française en général. Je pense qu'on a besoin d'un grand coup de balai. Et on a eu Sarkozy, Juppé, Hollande en 2 semaines. Une bonne nouvelle, mais il faut que ça continue. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire que les anciens présidents ou actuels présidents de la République soient remplacés par leur second, par leur doublure. Dans le débat de l'élection présidentielle, ça n'apporterait pas grand-chose.
Florian Philippot, on retrouve maintenant en ligne avec nous un autre député Les Républicains, Hervé Mariton. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez soutenu Alain Juppé lors de la dernière primaire de la droite et du centre. Alors, désormais, avec ce renoncement de François Hollande, est-ce que ça veut dire que la route est dégagée pour le candidat de la droite ?
Non, ça veut dire que le travail est d'autant intense. Vous savez, la gauche n'est pas morte. La politique révèle des surprises. On l'a vu avec la primaire et la victoire, la belle victoire, ma foi, de François Fillon. Mais il faut aussi avoir en tête que les différents candidats socialistes vont faire une campagne d'une certaine manière dégagée de l'Est du poids que représentait François Hollande, bien sûr, et ils vont essayer de le faire dégager du bilan. Je crois que c'est Mélenchon tout à l'heure qui très justement expliquait que, eh bien, ma foi, il faut faire attention que tout ça ne vaille pas amnistie, en quelque sorte, du bilan désastreux de la gauche. La gauche va essayer de nous faire le coup d'une action totalement renouvelée. Il ne faut pas qu'on soit dupe de cela. Et je crois que le message qu'il faut garder en tête, c'est un, le bilan désastreux du quinquennat. Deux, en effet, moi je veux bien l'accorder, une lucidité et une forme de dignité dans le renoncement de François Hollande. Mais Adrien Veil n'avait pas le choix et je faisais partie des rares à penser depuis longtemps qu'il ne serait pas candidat, et je l'avais dit. Et trois, à bien comprendre que c'est une situation d'autant stimulante pour la droite. Nous sommes en ordre de bataille avec le succès de la primaire, et en même temps, la primaire, ça n'est pas la fin du débat, ça n'est pas la fin de l'histoire, et l'important, c'est de gagner l'élection présidentielle et ensuite de réussir l'alternance. Donc il faut qu'on soit très attentif à démontrer aux Français, ceux qui ont voté aux primaires, mais aussi ceux plus nombreux encore qui n'ont pas voté aux primaires, que le bon choix, c'est celui que nous proposons aux Français.
Hervé Mariton, vous parlez d'une situation stimulante pour la droite. C'est quand même une situation peut-être un peu plus dangereuse. Hollande était un candidat plus à la main de François Fillon et de la droite. Désormais, il y aura peut-être Manuel Valls, il y aura assurément Emmanuel Macron. Est-ce que ça complique pas un peu la situation pour le camp de la droite ?
Oui, enfin François Hollande était le candidat rêvé, de même que Nicolas Sarkozy était le candidat rêvé vu de gauche, je pense, François Hollande était le candidat rêvé vu de droite. Donc voilà. Quand je dis stimulant, c'est un terme un peu, une sorte d'understatement, de litote pour dire ce que vous dites. Clairement, ça complique le travail. Et oui, il faut qu'on soit stimulé. Vous savez, la primaire, c'est sans doute la meilleure des choses, pour autant qu'on ait compris qu'une fois que la primaire est achevée, tout le travail est à réaliser. L'étape de la primaire est importante. Dégager un candidat, aborder et traiter des enjeux de fond, mais on va rentrer maintenant dans une campagne qui n'est pas écrite d'avance, ni son déroulement, ni son résultat. Et il y a deux manières d'interpréter le renoncement de François Hollande. Il y en a une qui serait de dire, mais regardez, on vous l'a dit et on l'a démontré, certes, mais ça ne prépare pas l'étape d'après. Et la deuxième manière, c'est de considérer, stimuler, comme je vous l'ai suggéré, que toute la campagne est à venir. Des hommes et des femmes que les Français vont regarder nouvellement, un débat de fond qu'on doit tenir. Donc pour nous, la démonstration du projet, de ce que ce projet pourra être efficacement mis en œuvre et réussir, c'est essentiel.
Merci Hervé Mariton, député Les Républicains. On vous retrouve, Olivier Roucan, politologue. Alors, comment François Hollande, désormais, va-t-il se positionner, va-t-il gouverner durant la campagne et jusqu'à l'élection ?
Je pense qu'il va mettre en ordre l'équipe qui lui reste et il va sans doute proposer une fin de mandat, disons, marquée par quelques symboles. Je pense qu'il a à cœur de défendre la démocratie et de souligner que la défense de la démocratie va compter dans les années qui viennent. Il l'avait dit lors de son 14 juillet, donc il va, de ce point de vue, faire un certain nombre de gestes. Je pense qu'il va essayer aussi d'indiquer ce qui, pour lui, compte en matière de politique étrangère. Et donc là, on a un certain nombre d'actes. Et puis, le troisième point, je pense que ce sera le pacte républicain. Garder le terme de rassemblement est beaucoup venu chez lui ces derniers temps. Et garder l'unité de la République. Voilà trois points qui, à mon avis, seront soulignés par lui dans les mois qui viennent. Et évidemment, avec l'unité de la République, il y a la sécurité et la lutte et la guerre contre le terrorisme.
Nous sommes pressés par le temps, désolé monsieur Roucan. Gérer donc les affaires régaliennes. L'édition spéciale sur Radio France Internationale continue. Il est 7h29, un journal dans une minute.
Entre 1904 et 1908, sous la colonisation allemande, une majeure partie des peuples Herero et Nama vivant sur le territoire de l'actuelle Namibie a été exterminée. À travers une exposition inédite, le Mémorial de la Shoah aborde ce crime de l'histoire coloniale africaine encore très largement méconnu et considéré aujourd'hui comme le premier génocide du XXe siècle. Le génocide des peuples Herero et Nama dans le sud-ouest africain, une exposition au Mémorial de la Shoah jusqu'au 12 mars, en partenariat avec RFI.
En 2017, les élections présidentielles et législatives auront lieu en France. Vous résidez à l'étranger et souhaitez voter à l'étranger pour ces élections ? Connectez-vous sur le site service-public.fr, rubrique « Résider à l'étranger ». Vérifiez que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale consulaire, actualisez vos coordonnées et vos options de vote si besoin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous en ligne avant le 31 décembre 2016. Plus tard, ce sera trop tard. Plus d'informations sur voteratlétranger.gouv.fr.